On va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin, à part faire des œuvres d'art au camembert, vous occupez aussi un peu de vin quand même.
Il faut que je justifie un peu mon salaire et ma peinture suffit pas à faire vivre mon foyer. Donc voilà. Alors je vous ai promis quand même tout à l'heure de mettre de l'eau dans mon vin. Évidemment, je blague, mais pas tout à fait parce que j'ai quand même choisi l'eau comme un thème transversal à partir de constats patents que voilà. Le melon et la pastèque, c'est 90% d'eau. Le vin, c'est 85% d'eau. Le corps humain, c'est 75% d'eau. Alors évidemment, à l'heure estivale, pour ne pas dire caniculaire, la question de l'eau prend un relief particulier et ça entre évidemment en résonance avec l'actualité climatique. Il faut savoir que dans le sud, les raisins ont grillé au sens premier, comme si on les avait passés au chalumeau. C'est vrai dans le Gard, dans le Languedoc, dans le Roussillon. Donc évidemment, on a une pensée pour ces vignerons qui se demandent bien de quoi demain va être fait. Alors, j'ai rempli les verres parce que évidemment il faut penser à se réhydrater un tout petit peu de temps en temps. Mmh. Et pour examiner cette actualité brûlante, je vous emmène en Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud ? Le melon et la pastèque sont originaires d'Afrique, mais aussi en Afrique du Sud a été installée au XVIIe siècle une viticulture par des Huguenots qui nous venaient de, attention, ta-ta-ta, de Charente, on cause déjà melon, de Luberon.
Du Luberon,
bien sûr. Vous voyez ? Et c'est un cépage chenin, ce vin. Et pourquoi le chenin ? Et bien simplement parce que il fallait un cépage qui nous donne un petit peu de repères communs avec l'Afrique du Sud, mais aussi et surtout parce qu'il est protéiforme. Vous travaillez le melon en dessert, en entrée, en plat principal, etc. Eh bien, le chenin nous permet de faire des secs, des demi-secs, des grands liqueurs et même des bulles. Et puis aussi parce que le cépage chenin, c'est pas tout à fait neutre. C'est celui qu'on a implanté en Afrique du Sud pour lancer l'histoire du vin blanc là-bas. Donc, c'est un vin du Swartland, c'est à l'ouest de l'Afrique du Sud, mais il y a une petite coquetterie qui n'appartient qu'à moi, parce que je suis le seul détenteur de l'étiquette, c'est un 2019. 2019. Voilà, ce qui veut nous dire que hémisphère sud, les vendanges commencent en début d'année. C'est une mise en perspective un peu d'autres réalités. Alors, une bouteille seule, ne pouvant prétendre à la réhydratation que temporaire, finalement, et pas à la résolution des problèmes sur le long terme, je me suis tourné vers un analyste, un spécialiste de l'adaptation de la viticulture au changement climatique. Et je l'ai rencontré à Angers. Alors pourquoi Angers ? Parce qu'il est enseignant-chercheur à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et j'ai profité de l'événement du premier congrès international de ce fameux cépage chenin pour lui poser des questions. Et vous allez voir, il va nous éclairer sur les dangers, et notamment ce qu'est le stress hydrique, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce déficit d'eau. Il nous énonce quelques perspectives un peu radicales. Il s'appelle Étienne Lisling. Vous trouverez peut-être un tout petit accent parce qu'il nous vient d'Afrique du Sud.
Un des enjeux aujourd'hui pour les filières vitivinicoles, c'est de trouver à la fois les pratiques culturelles adaptées à la sécheresse ou même qui se posent à les territoires par rapport à la question des terroirs qui sont traditionnellement ont été des très bons terroirs et qui peuvent, dans un futur proche ou voire lointain, devenir moins favorables et on peut avoir une restructuration au sein d'un territoire. Qu'est-ce que ça s'entend ? Ça s'entend qu'on doit travailler sur les pratiques qui permettent la vigne d'être plus résistante à la sécheresse, par exemple, de retravailler les notions de gestion de l'enherbement, la gestion du travail du sol. On peut aussi apprendre chez les pays qui produisent déjà du chenin, par exemple, dans les pays arides comme l'Afrique du Sud, comment les vignerons faire face à ces conditions encore plus arides qu'on peut connaître en Vendée-Loire. Donc, quelque part, on doit prendre conscience que la viabilité économique du territoire, elle dépend en fait de comment les vignerons vont faire face à ce manque d'eau qui a une incidence sur la qualité serre, oui, parce qu'on a un blocage de la maturation des raisins en situation de stress hydrique, mais ça juge surtout sur le volume produit et qui, pour un petit producteur, devient aujourd'hui un enjeu majeur.
Et voilà, des enjeux majeurs. Et vous l'avez entendu, planter la vigne ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose quand même assez radical. Et planter de la vigne ailleurs, c'est un engagement de 25 ans. C'est une génération. Donc il nous faut trouver des solutions qui soient à mettre en œuvre tout de suite. Il y a l'irrigation, il y a l'agroforesterie, planter des arbres, des pièges à carbone. C'est aussi vrai pour le tissu urbain. On en reparle en ce moment, pour faire baisser les températures. Et puis on peut aussi travailler le couvert végétal. Et là, je pense que Xavier, vous aurez des choses à faire valoir. On va semer des herbes entre les rangs de vignes et on ne va pas les tondre. On va les plier pour les pincer. Et tout ça va se décomposer en humus qui va rendre le sol meuble. Et le sol va absorber, stocker l'eau. Voilà les méthodes alternatives. Mais la vraie grande technique pérenne et efficiente pour combattre le stress hydrique, apporter de l'eau, c'est lorsque je chante, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Derrière mon bar, 30 ans de service, 130 milliards d'oses de pastis. Fier toboggan, roi de la descente, grands entonnoirs, gosier en pente. J'ai enterré bien des héros, pinardologue, as du goulot. Pour ma retraite, change de bocal, j'ai pris perpète en cure thermale.
Oui, il pleut. Il pleut ou ça va pas tarder ?